Le quartier des aviateurs, un patrimoine urbain et paysager à protéger. Une conférence de Denis Delbar, professeur à l'ENSAP de Lille.
Je vous remercie d'être venu m'écouter, je suis très honoré voilà, que vous soyez là. Vraiment très honoré parce qu'en fait c'est très rare qu'on ait l'occasion de parler de ce type de réalisation architecturale sous l'angle de leur qualité patrimoniale, puisque en général quand on parle de grands ensembles, de logements collectifs, de logements sociaux, c'est pour dire que c'est moche, que c'est mal construit, que ça rend les gens idiots, méchants, etc., etc. Que donc on va démolir tout ça et que ça réglera tous les problèmes de la Terre. Bon, si les choses étaient aussi simples, je pense que ça fait belle lurette qu'on le saurait. Et donc, il y a très très peu de gens finalement qui portent sur ces quartiers-là un regard bienveillant, curieux et finalement conscient que, bah oui, il y a aussi de la qualité architecturale, il y a de la qualité urbaine, il y a de la qualité paysagère et il y a de la qualité de vie dans ces quartiers-là. Donc ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est ce quartier des aviateurs, qui est ce qu'on pourrait appeler un petit grand ensemble. Un petit grand ensemble, donc ça peut sembler contradictoire. C'est vrai que quand on parle de grands ensembles, on imagine souvent des immenses quartiers comme Sarcelles, La Courneuve, hein, pour parler de quelques quartiers célèbres. Mais là, ici, on est resté sur une petite échelle. Les aviateurs, c'est 350 logements, c'est 6 barres de 50 logements. Et donc voilà, on est resté sur une échelle de petit grand ensemble qui finalement donne à ce quartier une bonne part de sa qualité. Alors pour comprendre un peu, alors je pense que ici dans la salle il y a essentiellement des habitants du quartier, donc c'est le cas. Il y a des personnes qui ne sont pas du quartier. Ah, il y a Gérard. Donc ce premier dessin ici, simplement pour resituer le contexte, l'environnement en fait de ce quartier. Donc ce quartier des aviateurs, structuré autour de trois rues parallèles, la rue Colli, la rue Ningesser et la rue Guinemer, desservi au nord par la rue Mermoz et entouré donc par quelques éléments remarquables. Au nord, ce qu'on va appeler le vieux bois blanc, même s'il n'est pas si vieux que ça, on va en parler rapidement. À l'est, l'école Guinemer et derrière le stade Gagarine, donc des grands équipements scolaires et sportifs. L'école de musique également, qui s'est déplacée récemment au bord de la Deule. Au sud, la dérivation de la Deule et de l'autre côté, le port fluvial. Et puis à l'ouest, le site de l'usine Montpellier et la gare d'eau. Voilà, ce qui est important à comprendre en fait pour apprécier ce qui s'est passé sur ce quartier des aviateurs, c'est qu'ici au Bois Blanc, on est dans un quartier qui a été construit à 90% par les politiques de logement social. C'est-à-dire qu'il y a un petit noyau rural plus ancien, mais dont il ne reste pratiquement rien. Et en fait, la quasi-totalité des rues qui composent ce quartier sont issues de ces politiques de logement social. En particulier ici, vous voyez l'une de ces rues, la rue du Général Anne de la Bourdonnais, qui est tout à fait comparable à la plupart des autres rues du quartier, hein, la rue de Tourville, la rue Surcouf, la rue de la Bruyère, etc., etc. La rue des Bois Blancs, toutes ces rues-là, ont une caractéristique commune, c'est qu'on y voit la même petite maison, à peu de choses près, qui se répète sempiternellement. C'est le même modèle de maison, il y a quelques modèles, hein, avec des très légères déclinaisons. Et bien en fait, ces maisons-là, c'est déjà le résultat des premières politiques de logement social, quand en 1928, donc il y aura bientôt un siècle, a été votée, à l'instigation du député socialiste de Roubaix, Jules Loucheur, la première loi de financement public de la construction de logements à destination des familles à faible revenu. À l'époque de la loi Loucheur, en 1928, ce n'était pas encore l'État qui prenait en charge la construction des logements sociaux. C'était toujours une initiative privée, donc essentiellement c'était le patronat qui faisait construire des maisons pour ses ouvriers. Mais à partir de cette loi de 1928, l'État verse des aides financières à ses investisseurs privés. Donc leur apporte un soutien financier à condition qu'ils respectent un cahier des charges allant dans le sens d'une plus grande qualité de ces logements. Donc c'est la fin où on arrête de construire dans les fameuses courées que vous connaissez, hein, qu'on voit beaucoup. Il y en a quelques-unes dans le quartier de Bois Blanc, mais il y en a surtout sur Oisennes, sur Moulins. Donc ces maisons construites autour d'une cour avec un seul accès sur l'espace public et puis souvent un raccordement à l'assainissement assez réduit. Avec la loi Loucheur, on va financer des logements individualisés avec un accès direct sur la rue, avec une cour personnelle et donc des logements plus aérés. Voilà. Grosso modo, bon, la Deuxième Guerre mondiale arrive là-dessus, on en est à peu près là. Et au sortir de cette Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de démolitions. Il y a également une modernisation de la vie économique qui va se traduire par une concentration de la population dans les villes, à proximité des grands pôles industriels. Donc d'un coup, il y a un afflux de population très important. Mais on n'a pas vraiment inventé à ce moment-là de nouveaux dispositifs qui allaient permettre d'accueillir ces populations. Jusqu'à ce fameux hiver 1954, pendant lequel l'abbé Pierre lance son célèbre appel, hein, il voit des gens mourir à la rue et il appelle à la solidarité nationale pour que de véritables politiques de logement soient mises en place, beaucoup plus efficaces que celles qui étaient héritées de la loi Loucheur. Et donc à partir de 1954, l'État prend directement l'initiative de la construction du logement, c'est vraiment la naissance du logement social, et va décider de se donner les moyens de construire des ensembles de logements relativement massifs, avec des procédés industrialisés, de façon à pouvoir les construire le plus rapidement possible, puisqu'il y a vraiment une urgence à laquelle il faut répondre. Donc le quartier des aviateurs, il va naître de cette demande-là, il rentre dans le cadre de ces politiques-là, et avec une pression en plus particulière qui est due à cette opération que vous voyez ici, qui est l'opération Saint-Sauveur. Le quartier Saint-Sauveur à Lille, le quartier autour de l'hôtel de ville actuel, c'était le grand quartier ouvrier très dense de Lille. Ce quartier a commencé à être détruit dans les années 50, et progressivement, toutes ces personnes qui habitaient dans ce quartier Saint-Sauveur, il fallait bien les reloger quelque part. Donc on a accéléré à ce moment-là les programmes de construction de grands ensembles sur l'île ou autour de l'île, et c'est comme ça que le quartier des aviateurs a été programmé sur le quartier des Bois-Blancs. Alors, il se trouve que ce petit grand ensemble, sa construction a été confiée à un architecte qui est assez singulier, qu'on voit ici, qui s'appelait Théodore Levaux, donc qui est né en 1896, qui est mort en 1971. C'est un architecte qui n'est pas très connu, et c'est un tort, parce qu'il était quand même assez original, ce monsieur. En particulier, il était à la fois architecte, urbaniste et paysagiste. Il avait ces trois formations-là, et ça se traduit par un goût très prononcé qu'il avait pour les espaces verts. Théodore Levaux, c'était l'élève d'un paysagiste, un très grand paysagiste français, qui s'appelait Jean-Claude Nicolas Forestier, qui est l'inventeur de ce qu'on appelait les systèmes de parc. Aujourd'hui, on parle de trames vertes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là. Les trames vertes, c'est cette idée qu'il faut constituer à travers les villes des grandes continuités vertes, des grandes continuités de parcs, qu'on doit pouvoir se déplacer de parc en parc en n'ayant pratiquement pas à traverser de voirie, que c'est bon pour la santé publique, que c'est bon pour la qualité paysagère, que c'est bon aussi pour l'environnement, puisque ces trames vertes permettent d'assurer une présence des espaces naturels jusqu'au cœur de la ville. Et Théodore Levaux, il se trouve qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il a été nommé en 1950 pour devenir le premier urbaniste de la ville de Lille. Et il a fait ce plan que vous avez là, qui est le premier plan directeur d'aménagement de Lille, donc vers 1950. Alors, dans le fond de la salle, je pense que vous avez certainement un peu de mal à détailler ce que ce plan vous montre, mais il y a certainement une chose que vous voyez, c'est cette espèce de ruban vert qui entoure la ville et qu'on appelle la ceinture verte de Lille. Théodore Levaux, c'est lui qui dessine cette ceinture verte et qui la planifie. C'est lui, en fait, le père de la ceinture verte lilloise. Ceinture verte qui n'a été réalisée que de façon partielle. Il y a évidemment la citadelle au nord, ici il y a tout le site de la Poterne, la plaine Winston Churchill, jusqu'à l'actuel parc Henri Matisse, hein, qui se situerait maintenant à peu près à ce niveau-là. Toute la couronne HLM sud de l'île va servir de soutien pour la création de cette ceinture verte. Et ici, vous voyez notre quartier des Bois-Blancs. Eh bien, il est également concerné par une portion de ceinture verte. En fait, c'est toute la façade ouest de la ceinture verte lilloise que Théodore Levaux dessine le long de ce quartier des Bois-Blancs et le long de la dérivation de la Dole, puisque ce plan d'aménagement directeur va programmer également la dérivation de la Dole avec la création du nouveau port fluvial sur tout ce secteur-ci, donc en face du quartier de Bois-Blancs, le port fluvial se trouvant jusque-là sur le secteur Vauban, juste au sud de la citadelle. Donc il se saisit de cette opportunité de faire la dérivation de la Dole pour l'accompagner par toute une série de parcs, de jardins, alors qui à cette échelle-là ne sont pas dessinés précisément, bien sûr, mais ils sont implantés sur ce secteur-là, et c'est là que les aviateurs vont apparaître. Alors, le projet dessiné par Théodore Levaux, le voici. Hein, donc ça, c'est donc moi, je me suis rendu à l'Institut français d'architecture à Paris, qui conserve des archives d'architectes. Donc il y a un fonds Levaux, un petit fonds Levaux, dans lequel j'ai retrouvé avec bonheur ce plan, le seul qui reste d'un dossier de construction de ce quartier des Aviateurs. Alors vous voyez, tout est déjà en place, hein, sur ce plan. On voit bien les 6 barres. Elles sont à peu près là où elles ont été effectivement construites. On voit bien les 3 voiries qui vont permettre de les desservir. On voit bien le groupe scolaire, donc l'école Guinemer, qui va être installée. Et puis la rue Mermoz qui va permettre de desservir tout ça. Donc on pourrait dire que bah voilà, c'est le plan du quartier tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais il y a quand même des petites différences. Hein. Bon, évidemment, vous ne pouvez pas les voir, vous êtes trop loin. Donc je vais vous les signaler. La première différence majeure, c'est que ici, il y a une voirie. Alors ici, on est sur les bords de Dole. Donc quand Levaux dessine ça, ce qu'il imagine, c'est non pas un quartier constitué par 3 impasses, ce qui est le cas actuellement, mais un quartier dans lequel les voitures vont pouvoir circuler partout. C'est-à-dire que ce sont des îlots urbains tout à fait comparables à ceux qu'on peut avoir dans le reste du quartier. Cette voirie ne s'est pas faite. Et alors là, j'exprime un point de vue personnel, je pense que c'est une très bonne chose. Hein. Mais à l'époque, voilà, c'était l'époque du tout voiture. Hein, donc il était parfaitement logique de boucler toutes ces voiries de façon à permettre une bonne circulation. Autre différence, le stationnement. Il y a un très gros problème de stationnement dans ce quartier des Aviateurs. Forcément, les gens n'ont pas de garage. Donc on se gare sur la voirie, c'est-à-dire souvent sur le trottoir, ce qui se fait au détriment des piétons. Donc tout l'espace public souffre de cette non-prise en compte du stationnement. Louis n'est pas d'accord avec moi. Hein ? Pas aux Aviateurs. Alors, dans le projet de Levaux, il n'y a pas de problème de stationnement dans le sens où tous ces petits rectangles que vous voyez là sont des parcs de stationnement, en fait. Ce sont des batteries de garage qui sont complètement intégrées dans la trame du quartier, avec notamment pour effet ici de refermer des squares, qui sont les espaces verts. Il y a le mot « jeu » qui est dessiné sur le plan. Les espaces verts autour duquel ces barres de logement vont pouvoir s'organiser. Donc le stationnement est complètement intégré dans la conception du quartier, ce qui pour l'époque, là, c'est un plan de 1962, est assez étonnant. Il y a très très peu d'architectes qui se posaient des questions qu'ils considéraient souvent comme un peu triviales. Hein. La voiture, on considérait ça comme un problème annexe, trivial, pas très valorisant. Et puis une troisième chose qui apparaît dans ce plan et qui ne s'est pas faite, c'est ici le centre commercial. Il dessine un centre commercial donc le long de la rue Mermoz, entre la rue Camp-Robert, actuellement rue du Pont-à-Fourchon, et la rue du Commandant Bayard. Et donc ce centre commercial n'a pas vu le jour non plus. À la place, on a la mairie de quartier, devenue le CLAP, et puis la salle de concertation. Voilà. Donc ce sont quelques différences, vous voyez, mais qui ne changent pas substantiellement le projet. Ça va ? Bon, alors je continue. Alors, on a vu le projet. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. On peut voir assez facilement que ce petit grand ensemble a été conçu par un architecte paysagiste, c'est-à-dire quelqu'un qui considère qu'un projet, ça doit d'abord être une insertion paysagère. Cette insertion paysagère assez remarquable, on peut l'apprécier de 4 manières. La première, c'est qu'il y a ici un ancrage du quartier sur la ceinture verte. Je vous ai expliqué tout à l'heure que Théodore Levaux dessine cette ceinture verte en 1950. Donc là, j'ai agrandi, c'est un détail hein, du plan d'aménagement qu'on a vu précédemment. Donc détail zoomé sur le secteur Bois Blanc Aviateur. En 1950, pour lui, c'est purement et simplement des parcs qu'il faut faire à cet endroit-là. Mais l'hiver 54 arrive, on programme le grand ensemble, enfin le petit grand ensemble des Aviateurs, et il se retrouve donc confronté à une difficulté, c'est que là où il a dessiné un parc, on lui demande de construire des logements. Alors là, il y a une espèce de contradiction dans les termes avec lesquels il va falloir essayer de financer. Comment va-t-il faire ? La première chose d'abord, la première décision qu'il va finalement prendre, c'est de ne pas réaliser la voirie de bouclage, ce qui va permettre ultérieurement de brancher les barres des Aviateurs directement sur la ceinture verte. Donc cette ceinture verte, elle va être aménagée de façon progressive. Vous avez ici une photographie aérienne que vous ne pouvez absolument pas voir depuis l'endroit où vous vous trouvez et que nos chers auditeurs ne peuvent même pas imaginer. Et c'est dommage car elle est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'on voit sur cette photographie aérienne prise dans les années 70 ? C'est qu'on a le long de la Dole déjà une petite promenade publique qui a été aménagée. Cette promenade vient desservir les aviateurs et elle s'arrête là. Elle ne va pas jusqu'à la gare d'Eau. Il va falloir attendre la fin des années 80, le début des années 90, pour qu'on continue la promenade jusqu'à la pointe sud du quartier des Bois Blancs et qu'on fasse le bouclage avec la gare d'Eau. Voilà. Mais en tout cas, voilà, cette ceinture verte, elle s'est faite de façon progressive, alors sur des emprises moins importantes que celles qui étaient projetées au départ, certes, mais l'intérêt, ce que le quartier des aviateurs gagne là-dessus, c'est que c'est un quartier qui est construit au bord de ce chapelet de jardins publics, et donc qui bénéficie quand même d'un environnement extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. C'est même très précieux. Donc ça, c'est le premier aspect de cette insertion paysagère. Le deuxième aspect qu'on voit ici, c'est la volonté de faire dialoguer le quartier avec le port fluvial. Théodore Levaux dispose d'un atout. Il est à la fois l'architecte des aviateurs, l'urbaniste qui dessine la déviation de la Dole et qui doit aussi planifier le nouveau port fluvial, comme je vous l'ai expliqué. Et on voit bien ici, sur cette vue aérienne, qu'il y a une pensée qui traverse tout ça. Il y a un tracé notamment a pour effet de mettre les grandes darses du port fluvial dans la continuité, dans le même mouvement que les barres de logement des aviateurs. Comme si on avait là, ici, quelque chose, un ensemble qui passait à travers cette déviation de la Dole, et ce qui permet d'avoir un dialogue assez construit, assez intéressant, entre le quartier de logement et le port fluvial. Ça aussi, c'est assez rare d'observer des choses comme ça. Si vous vous promenez, si vous avez l'occasion, vous promenez dans d'autres villes où il y a des ports fluviales importants, en général, on n'a pas de vis-à-vis comme ça. Et en tout cas, on n'a pas de bâtiment qui s'ouvre véritablement sur le port fluvial, parce que les ports sont considérés à cette époque-là purement et simplement comme des infrastructures industrielles gênantes qu'il vaut mieux cacher, ignorer. Pour lui, non. Tout ça, c'est une composition d'ensemble. Troisième aspect de cette insertion paysagère, et non des moindres, le choix qu'il fait d'implanter les immeubles perpendiculairement à la déviation de la Dole. Il aurait tout aussi bien pu faire l'inverse. Vous savez, quand un promoteur veut réaliser une opération juteuse, qu'il bénéficie pour installer son opération d'un site magnifique, par exemple, disons, une rivière ou un fleuve, un canal même, avec de la verdure, tout ça. Qu'est-ce qu'il va faire ? Sa tentation, ça va être de construire un immeuble de façon à ce que le maximum d'appartements donne sur ce paysage. Parce que du coup, ces appartements, il va pouvoir les vendre cher. D'accord ? Là, ici, évidemment, la question s'est posée. Mais le choix que fait Théodore Levaux, c'est exactement l'inverse. C'est non pas de construire parallèlement au canal, mais de construire perpendiculairement. Vous imaginez ce qui se serait passé s'il avait construit parallèlement au canal ? Il aurait en fait bâti un mur qui aurait séparé l'intérieur du quartier de Bois Blanc des bords de Dole. En fait, il n'y aurait pas eu de communication visuelle directe entre le cœur du quartier et ce qui aujourd'hui constitue quand même son espace public principal, celui sur lequel tous les habitants se retrouvent et que tout le monde apprécie, à savoir ses bords de Dole. Au contraire, en construisant perpendiculairement, il maintient des possibilités de liaison visuelle directe. Et effectivement, quand on est rue Mermoz, on a le regard qui passe complètement à travers ce quartier, qui n'est pas du tout un obstacle visuel, mais au contraire quelque chose qui accompagne la perspective, creuse une perspective jusqu'à la Dole et jusqu'au port fluvial. C'est tout à fait remarquable. Bravo Théodore Levaux. Et puis le quatrième aspect de cette insertion paysagère, c'est ce qu'on pourrait appeler, lui n'emploie pas ce terme, c'est moi qui l'emploie, ce sont les lanières paysagères. En fait, c'est la conséquence directe de ce que je viens d'expliquer. À partir du moment où tous ces immeubles sont construits perpendiculairement au canal, eh bien, entre elles, ça libère des espaces libres. Et sur ces espaces libres, on va pouvoir faire des plantations et installer des espaces verts. Et donc, le résultat de ce choix, c'est que chacune des barres des aviateurs est en communication sur au moins une de ces façades, en général c'est la façade arrière, avec l'un de ces espaces verts. Là aussi, c'est très rare et c'est très précieux. Vous regarderez, dans de nombreux grands ensembles, on n'a pas de façon aussi systématique, pour l'ensemble des immeubles qui le composent, un accès direct à l'espace vert. Voilà, avec des plantations alors qui ne correspondent pas du tout à celles que Théodore Levaux avait imaginées au départ. Lui avait, on le voyait sur le plan tout à l'heure, c'est un petit détail, il était plus sur des plantations disséminées, il mettait un peu d'arbres partout. Là finalement, ce qui a été réalisé, qui d'ailleurs à mon avis est très bien, c'est plutôt de faire des paquets de plantations à certains endroits. Il y a des mailles de tilleul en particulier, qui sont très très beaux, très denses, qui sentent très très bon au printemps. Et puis qui alterne avec des grandes pelouses, alors sur lesquelles peut-être il manque un petit peu d'ombrage à certains endroits. On sent que tout ça a été fait à l'économie. On n'a pas mis beaucoup d'argent sur l'aménagement des espaces verts. Mais il y a quand même une composition d'ensemble qui se tient. Et il y a un potentiel énorme avec lequel on peut faire quelque chose d'absolument sublime. Pour l'instant, on a surtout parlé paysage et urbanisme. On va parler un peu architecture. Ces barres d'immeubles n'ont pas énormément d'originalité dans leur volumétrie. C'est du R plus 4, on a 4 étages au-dessus d'un rez-de-chaussée. Pourquoi ? Pas du tout parce qu'on trouvait que c'était beau, mais tout simplement parce que si on avait rajouté un cinquième étage, la loi obligeait à mettre des ascenseurs. Donc pour faire des économies à l'investissement et surtout à l'entretien, parce que la gestion d'un ascenseur c'est toujours l'enfer, eh bien on s'est dit, allez, on ne va pas s'embêter, on fait du R plus 4. Donc ça ne va pas plus loin que ça. Donc l'intérêt architectural de ces bâtiments, ce n'est pas là qu'il faut le chercher. C'est à deux autres niveaux. Premièrement, le matériau qui est mis en œuvre, c'est majoritairement de la brique. Alors qu'à cette époque-là, dans les années 60, les choix qui sont clairement faits par l'État français, c'est le béton. Voilà, il faut mettre du béton partout. Exactement au même moment se construisent les barres du groupe Marcel Bertrand qui ont été démolies depuis, la barre grise, la barre colorisée. Elles étaient entièrement en béton et c'est très clairement ce qui était attendu des architectes. Théodore Levaux impose la brique sur la quasi-totalité de ses bâtiments. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ça va avoir un effet qu'on voit très bien ici sur cette image, qui est prise depuis la perspective de la rue ex-Camp Robert devenue Pont à Fourchon. C'est que, imaginez qu'ici, les pignons de ces immeubles, au lieu d'être en briques, aient été en béton, on n'aurait pas eu du tout cette impression que ces immeubles se fondent en quelque sorte à l'intérieur du paysage urbain. Ils auraient fait rupture de façon beaucoup plus forte. Entre parenthèses, si sur la résidence Concorde à Faubourg de Béthune, on a aussi des immeubles entièrement en briques, c'est aussi grâce à Théodore Levaux, qui était urbaniste en chef et qui a imposé à l'architecte de l'époque, Noël Lemaresquier, de passer du béton à la brique. Je referme la parenthèse, encore qu'il y aurait à dire, parce qu'on s'apprête à démolir ces immeubles de façon, à mon avis, assez abusive. Bon, inappropriée. Alors, je n'ai pas là pour polémiquer. Donc je continue. Première particularité architecturale, l'emploi de la brique. Deuxième particularité architecturale qui apparaît très bien sur cette photo, une curiosité incroyable, c'est le désaxement des pignons. Vous voyez, le pignon ici, donc le mur pignon, c'est le petit mur là ici, et sur le côté c'est les murs de façade. Eh bien ces murs pignons, au lieu d'être sur un seul plan, sont sur deux plans. Il y a un petit décalage entre les deux. Pourquoi ? Ça c'est très étrange. C'est pas du tout dans l'idée de cette époque-là où on essaie de construire à l'économie. Ça emmerde tout le monde. Ça coûte plus cher, sur le chantier c'est plus compliqué à faire. Donc pourquoi ? C'est la question que je me suis posée. Donc j'ai cherché dans les archives, je n'ai pas trouvé la réponse. C'est des projets qui sont très peu documentés, on n'écrivait pas en fait là-dessus. Donc nous sommes réduits à la conjecture. Et là j'ai deux hypothèses à vous proposer. La première hypothèse, je reviens sur cette photo, c'est que je pense qu'en opérant ce désaxement, Théodore Levaux a réussi à diviser la masse de ces immeubles, qui malgré tout sont très larges, beaucoup plus larges que les maisons qu'on peut observer dans le reste du quartier de Bois-Blanc. Donc ça fait à peu près 12 mètres de large, ces pignons. Au lieu d'avoir 12 mètres, on a 2 fois 6 mètres, ce qui permet de se rapprocher de l'échelle des immeubles qu'on peut observer dans le reste du quartier. Et effectivement, quand on regarde cette photo, on voit bien que c'est comme si on avait deux pignons et non pas un seul, et que donc on essaye de rapprocher, en tout cas dans la perspective, les volumétries de ces bâtiments de celles qu'on peut observer dans le paysage urbain hérité. Voilà. Donc pour moi, c'est un geste qui traduit d'abord une volonté de faciliter l'intégration dans le paysage urbain de cet ensemble architectural. Il y a une deuxième raison qui est un peu plus pittoresque. Elle tient à la nature du terrain sur lequel ce grand ensemble a été construit. Qu'est-ce qu'il y avait là avant qu'on construise les aviateurs ? On l'a vu passer fugitivement, je vous ai montré tout à l'heure une vue aérienne prise juste avant le début du chantier où on voit qu'il n'y a que des friches, voilà, des terrains abandonnés. Oui, mais ils n'ont pas toujours été abandonnés. Qu'est-ce qu'il y avait là avant que ces terrains soient abandonnés ? Alors là, il faut aller à nouveau en archive et retrouver un document magnifique que vous regarderez en détail après parce qu'il est vraiment superbe. C'est un document de 1926 qui correspond au premier projet de déviation de la Dole qui avait été porté à l'époque par la Chambre de commerce et d'industrie. Bon, la déviation de la Dole, elle est là. Elle n'a pas été réalisée exactement à cet endroit-là, ni dans ce gabarit-là. Hein. 1926, donc on est un quart de siècle avant que s'engage le vrai chantier. Si ce plan est intéressant, ce n'est pas à cause de ce tracé du canal qui ne se fera pas là, c'est parce qu'il nous montre avec une précision extraordinaire ce qu'il y avait sur ces terrains sur lesquels les aviateurs sont venus se construire. Et ce qu'il y avait, c'est ça. Alors vous l'apercevez peut-être, hein, même depuis le fond de la salle, vous voyez ces grandes lignes bleues, là, toutes parallèles les unes aux autres, très longues, et qui viennent se jeter dans un petit cours d'eau qui s'appelle l'Arbonnoise. L'Arbonnoise, donc, c'est un affluent de la Dole, et qui ensuite passait dans le quartier, traversait le terrain des Vachers, traversait l'actuelle déviation de la Dole, n'existait pas bien sûr, à peu près en amont du pont de l'avenue de Dunkerque, et puis qui ensuite rentrait dans les fortifications de Lille pour s'engager dans la rue des Stations. La rue des Stations reprend très exactement le tracé de cette rivière de l'Arbonnoise. Bref, pourquoi est-ce qu'on a à cet endroit-là des grandes lignes bleues, c'est-à-dire des fossés très longs? C'est parce qu'en fait, on est sur des terrains maraîchers. Vous pouvez, si vous connaissez le marais au Domarois, la région de Saint-Omer, si vous n'y êtes pas allé, vous regarderez si ça vous intéresse une photographie aérienne. Hein. Vous allez sur Géoportail et vous allez voir que effectivement, le maraîchage, ça se traduit par le creusement de longs fossés qui viennent séparer des parcelles agricoles tout en longueur. Alors pourquoi sont-elles tout en longueur ? Pas pour faire joli, mais tout simplement parce que les maraîchages, ça correspond à des terrains très humides, donc à des terres très grasses. C'est pour ça qu'elles vont réussir à produire autant de légumes. On n'a pas besoin de beaucoup d'arrosage. Mais quand vous avez une terre très lourde, elle est extrêmement difficile à cultiver. Enfin, je vous dis ça, moi personnellement, je ne l'ai jamais fait, donc je ne fais que vous raconter ce qu'on m'a expliqué. On travaille à la charrue, c'est l'anière maraîchère. Mais le problème, ce n'est pas tellement de creuser le sillon. Le problème, c'est quand on doit retourner la charrue. Quand on est arrivé au bout de la parcelle, il faut sortir le soc du sol, faire tourner le cheval. À l'époque, c'était avec le cheval. Faire tourner le cheval, réenfoncer le soc, repartir. C'est au moment de, c'est le départ qui est le plus difficile. Bref, le problème dans une exploitation maraîchère, c'est chaque fois qu'on doit se retourner. Et là, vous comprenez maintenant pourquoi on cherche à faire des parcelles maraîchères tout en longueur. Ça permet d'avoir de longues lignes et très très peu de besoin de se retourner. Donc on appelle ça des lanières maraîchères. Théodore Levaux, qui était, donc je vous l'ai dit, non seulement architecte et urbaniste, mais aussi paysagiste, s'est évidemment intéressé à ce qu'il y avait sur ce terrain avant de construire les aviateurs. Et là, vous comprenez bien comment il y a une espèce de dialogue qui se noue entre l'orientation de ces bâtiments, cette organisation du quartier en bandes, une bande bâtie, une bande non bâtie, une bande bâtie, une bande non bâtie, et l'organisation initiale de ces terrains en lanières maraîchères. Sauf qu'une lanière maraîchère, c'est beaucoup plus étroit que les barres de logement, et donc peut-être qu'on a aussi, dans ce jeu de désaxement, une volonté de retrouver l'échelle du paysage maraîcher tel qu'il pouvait exister avant la construction des aviateurs. Je le précise, c'est une hypothèse, mais c'est une hypothèse sérieuse. Théodore Levaux, ça je peux le dire, sur chacun des projets de lui que j'ai eu l'occasion d'étudier, j'ai toujours retrouvé des documents qui montrent qu'il regardait l'état du terrain avant, et souvent il s'amusait à projeter le programme dessus pour voir ce qui se passait. Dans ses projets, par exemple, il conservait toujours les arbres existants. Voilà. Si ça vous amuse, vous regarderez ici ce plan sur lequel on a en fait l'état du terrain sur la carte d'état-major, c'est-à-dire vers le milieu du 19e siècle. Vous retrouverez ces lanières maraîchères. Et puis, j'ai repositionné les barres des aviateurs sur ces maraîchages. Ça vous permettra de voir un peu ce qui se passe. Vous verrez également un autre élément sur cette carte, c'est la présence des fortifications, hein, puisque là où aujourd'hui se trouve la dérivation de la Dole, se trouvaient autrefois les douves de ces fortifications de l'île. Et donc on a vraiment un paysage urbain aujourd'hui qui en quelque sorte est un peu la décalque de l'organisation de la ville telle qu'on pouvait l'observer au XIXe siècle. Alors, quelques réflexions finales. La première, d'abord, une réflexion sur les échelles et les volumétries de ce qui se construit aujourd'hui dans notre quartier. Vous voyez ici les images aériennes. Vous voyez des ensembles de logements avec des lanières d'espace public. Et finalement, on est sur des volumétries qui ne sont pas très différentes de celles qu'on peut observer sur le quartier des aviateurs. Sauf que le quartier des aviateurs est plus aéré. Hein ? Il y a plus d'espace entre les barres. Et donc là, on peut se poser quand même une question. Pourquoi est-ce qu'on s'apprête à démolir ce grand ensemble pour y construire une nouvelle opération qui sera plus dense, puisqu'on passe de 350 à 750 logements, et qui donc va amener des volumétries comparables pour les bâtiments, mais une volumétrie pour l'espace public qui, elle, sera beaucoup moins généreuse. Est-ce qu'on va vraiment gagner quelque chose dans cette opération en termes de qualité de vie ? La question se pose. Et puis, une dernière réflexion, justement sur la question de la démolition, autour de ce document. Magnifique dessin, dont je ne suis pas l'auteur, j'aimerais bien, mais et non, ça n'est pas moi. C'est un dessin de deux urbanistes, Germe et Jam, et c'est en fait le premier dessin du projet d'Aura Technologies. C'est un dessin qui explique pourquoi, enfin, à quel moment on s'est mis à imaginer que cet ensemble des aviateurs devait être démoli. Donc sur ce dessin, vous retrouvez, hein, ici vous avez Aura Technologies avec son parc, ici le vieux bois blanc avec l'église Saint-Charles, et puis vous cherchez les aviateurs, mais vous ne les trouvez pas, c'est normal, ils n'y sont plus, hein, ils devaient être là, hein, ils sont démolis. Alors pourquoi ? Pourquoi démolir les aviateurs ? Mais parce que le premier projet d'urbanisme sur ce quartier comportait une proposition assez audacieuse, que vous voyez ici, qui est un pont. Un pont qui devait permettre de franchir la dérivation de la Dole, de traverser le port fluvial pour aller se brancher directement sur le rond-point qui donne accès à la 25 vers Dunkerque et à la 1 vers Paris. L'enjeu, c'était quoi ? C'était de donner directement depuis ces autoroutes un accès au cœur de cette opération Aura Technologies, de manière à garantir un excellent niveau d'investissement à l'intérieur de ce quartier. Ce pont ne s'est pas fait, donc aujourd'hui, pour accéder à Aura Technologies, on doit emprunter le boulevard de la Moselle, si ma mémoire est bonne, si je ne dis pas trop de bêtises, ensuite traverser par l'avenue de Dunkerque, et puis ensuite longer la Dole pour arriver finalement, ou bien traverser le quartier pour arriver. Donc, on a des flux qui passent dans le quartier, mais on n'a pas de raccordement direct de cette opération Aura Technologies sur le réseau autoroutier. Voilà. Alors, à l'époque où ce pont était envisagé, forcément, les aviateurs étaient un petit problème, parce que quand vous faites un pont comme ça, le tablier du pont doit être très très haut. Hein. N'oubliez pas, il franchit un canal à grand gabarit, qui doit faire passer des porte-conteneurs, donc on doit avoir un tirant d'air sous le tablier de au moins 7,50 m. Vous rajoutez l'épaisseur d'un tablier, vous n'êtes pas loin de 10 m. Les rampes d'accès pour monter à 10 m de haut, ça se tire sur des centaines et des centaines de mètres, et aux abords du pont, ça veut dire qu'on a d'énormes remblais, qui sont comme des murs en fait, hein, des murs dont le pied se serait retrouvé directement dans les barres de logement en fait. Donc c'est à ce moment-là que l'idée de détruire ce quartier apparaît, et finalement, l'urbanisme, ça se fait toujours très lentement, hein, Yolande, mais une fois que c'est lancé, c'est très difficile à arrêter. Quand une idée a été validée à un moment donné, même si le projet change, puisque le pont a été abandonné, hein, vous avez remarqué qu'il n'a pas été construit, je pense qu'il ne sera jamais construit, eh bien, malgré tout, le fait qu'on ait, à un moment donné, posé cette hypothèse, ça reste là. Et c'est très difficile, ensuite, de faire machine arrière. Voilà. Donc là, on a un peu l'origine du problème, en quelque sorte. Et je pense que c'était pas inutile de finir mon propos avec cette perspective, hein, qui doit nous amener à réfléchir sur le bien fondé du projet actuel, qui est donc un projet qui vise à démolir la moitié de ce grand ensemble, à densifier les espaces libérés et à imposer à l'ensemble des personnes qui y habitent de quitter ce quartier, alors qu'on leur a expliqué pendant des années que tout ce magnifique projet urbain se faisait évidemment pour eux, pour leurs enfants, pour la qualité de leur cadre de vie. Voilà, j'en ai fini.
Tout le monde y veut seulement bois blanc. C'est l'endroit qui les fait rêver. Tout le monde y veut seulement la gueule. C'est l'endroit parfait pour se baigner. Et dans ta serviette au vaché, sous le soleil du plein été. Allez, pourquoi mater la télé quand y'a la garde à côté? Vas-y, passe le pont. Sois le bienvenu dans notre petite île. Un village au milieu d'une ville. Emmène ton parasol et ton huile. Oh oh. Ciao. What would you stand to happen? Freedom. Peut-être tu devras t'éloigner. Loin du centre et loin de sol. Seulement bois blanc, c'est l'endroit qui les fait rêver.